France Inter.
Je me suis rendu compte qu'en fait, homme, ça collait pas non plus. C'était pas ça. C'est-à-dire que qu'on me dise il ou qu'on me dise elle, finalement je sens une injonction à être quelque chose que je suis pas. Moi-même je savais pas forcément ce qui était le mieux pour moi parce que je me sentais un peu en danger, que ce soit chez des femmes ou chez des hommes, parce que je ressemblais pas forcément à une femme, ni à un homme. C'était pas les bonnes cases pour moi.
Interclasse, Éric Valmire sur France Inter.
La femme en tant qu'homme, enfin je veux dire homme en tant qu'espèce humaine, donc femme en tant que femme en fait. Bref, aujourd'hui nous allons parler de la femme et pas seulement de sa condition. À l'âge adolescent, définir aussi son identité sexuelle qui est toujours en lien avec l'identité sociale est un sujet qui ne s'évoque pas à la légère et qui ne se partage que très rarement avec les proches. Et pourtant, le genre n'a jamais été aussi présent dans les questionnements de cette génération aujourd'hui. Et à ce titre, le témoignage rare en fin d'émission autour d'une identité sexuelle à construire en dehors du schéma binaire est à ne pas rater. Car ce dont souffrent les jeunes sur cette question, c'est l'information, le manque d'écoute, sans moquerie, le dialogue en famille, le dialogue tout court, la compréhension. Et aussi le droit de se tromper, même si changer d'identité sexuelle tous les 5 ans serait moins facile que changer de coupe de cheveux. Dans quelques ateliers d'interclasse cette année, on sentait bien dans les rires gênés qu'il y avait l'envie d'approcher ce sujet et que paradoxalement, il existe quand même un fond d'homophobie qui relève souvent d'ailleurs de la posture, mais qui n'encourage pas les conversations autour du sujet. En revanche, les filles ont voulu secouer les garçons pour parler d'elles, de leur place dans la société et de la relation qui régissait la femme au reste du monde. Les féminicides, les violences conjugales ont été médiatisées grâce aux efforts des associations mobilisées et les secondes du lycée Buffon à Paris ont voulu donner une caisse de résonance supplémentaire.
Je m'appelle Magda.
Je m'appelle Mao.
Je m'appelle Linda et on est en classe de seconde au lycée Buffon.
On a choisi de traiter le sujet des violences conjugales.
C'est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on se renseigne et on s'y connaît déjà pas mal.
213 000 femmes sont victimes de violences.
82% des morts au sein d'un couple sont des femmes.
Les femmes qui déclarent avoir été victimes de violences,
29% des violences aboutissent à une condamnation.
Déjà 27 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis janvier.
Pour comprendre mieux leur vécu, on a lu des témoignages de femmes victimes de violences conjugales dans les médias.
Leurs histoires sont uniques, mais les violences qu'elles subissent s'inscrivent souvent dans le même schéma.
Et c'est important qu'on s'y intéresse en tant que jeune femme, mais c'est aussi important que les garçons s'y mettent.
Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui a été tenté par le sujet.
Pourquoi t'as pas choisi le sujet sur les violences faites aux femmes ?
En fait, je voulais, mais je voulais pas y aller seul.
C'est un combat qui concerne plus les femmes. C'est assez bizarre quand t'entends un homme qui parle des féminicides et tout ça.
Après, ça veut pas dire qu'il s'en fiche.
Faut que l'État contrôle ça, mettre un système, je sais pas. En tout cas, faut que ça se règle au plus vite, parce qu'on est en 2023 et il y a toujours ces problèmes.
Alors on s'est demandé comment informer au mieux à ce sujet. Comment les informer au mieux ?
On a fait appel à Rosaline Rollier, membre de la Maison des Femmes.
Quelconque femme ou jeune femme qui commence à dire même une demi-phrase sur les violences, la première chose qu'il faut lui dire, c'est « je te crois ». Et jamais on ne dit à une femme « mais pourquoi t'es pas partie ?» Si elle n'est pas partie, c'est qu'elle ne pouvait pas.
Violence conjugale, agression sexuelle, viol, attouchement, excision, mariage forcé, violence psychologique, harcèlement. Femmes victimes de violences, des professionnels vous écoutent et vous accompagnent. Appelez le 3919, appel anonyme et gratuit.
Un reportage interview avec le concours de Joséphine Tazdaïd, diplômée du CFJ Paris. On sent bien déjà que la relation garçon-fille n'est pas si simple. On l'a bien senti en salle de classe aussi, quand la définition de consentement prenait des contours très abstraits auprès des jeunes mecs. Ce qui fait que chez les filles, le sexe serait en barrage, une ligne de fracture qui affecterait toute amitié. On le dirait si on se réfère à cette conversation entre les collégiens de Villefranche-sur-Saône avec Mathilde Imberti, la correspondante de France Inter à Lyon.
Thomas, tu voulais parler des rapports filles-garçons ? C'est pas évident, hein. On est en troisième, vous avez 15 ans, et c'est pas très fluide, d'après ce que tu nous dis, toi.
Oui, parce que dans les cours de récréation, les filles restent avec les filles, et les garçons avec les garçons. Quand les garçons ou les filles vont voir la personne du sexe opposé, ça dit des remarques déplacées, du coup ça nous freine aussi, en fait.
C'est pas forcément méchant, enfin, c'est de la rigolade, voilà.
Et qui peut être perçu différemment, oui, selon, voilà, son exactement. Tempérament, sa
après,
sensibilité.
Après, oui, je suis d'accord, ça peut, oui, forcément, ça freine.
Je pense aussi que le terme ami il doit pas être décrédibilisé. Un ami, ça doit être quelque chose de précieux. Un ami, on lui parle de ce qu'on ressent. C'est pas un ami, on rigole avec en classe. Ça ne reste que de la camaraderie. Et l'amitié fille-garçon, pour nous, ça n'existe pas. L'homme et la femme ont été créés pour avoir des enfants ensemble, pour être en couple, pour qu'il y ait une certaine relation. Donc pour moi, à partir du moment où tu dis « je suis ami », donc avec le terme « ami » qui est précieux, pour moi, il n'y a pas d'amitié fille-garçon.
Thomas ?
Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup, donc, depuis que je suis né, j'ai toujours eu beaucoup plus d'amis filles que de garçons. Il y a un travail à faire sur ça.
Un travail, c'est-à-dire ?
Que l'amitié fille-garçon, ça existe.
Et pourquoi ça existerait ?
Il ne devrait pas avoir des obstacles juste parce que c'est une fille ou un garçon.
Tu peux avoir des points communs, des affinités
oui,
avec
voilà.
une fille.
On peut avoir des affinités avec une
fille. Mais ça ne va pas
une...
être ami. Genre, je ne vais pas dire oui, c'est mon meilleur
c'est
ou c'est ma meilleure
amie. Crée,
et
fait,
pourquoi
mais...
ce ne serait pas un ami ? Bah après, je ne sais pas comment
en
expliquer.
En fait, dans
mais...
l'amitié, il faudrait avoir une certaine limite pour ne pas dépasser ça.
Oui, voilà.
Ah, vous pensez Exactement. Que ça peut être tout de suite tendancieux ?
Pas ah, tendancieux, ouais, ouais. mais...
Il y a toujours un des deux qui va être plus fébrile en fait, qui va se dire bon bah cette fille elle m'a prêté son stylo, enfin c'est un exemple tout débile, hein. Bah cette fille elle m'a prêté son stylo, bah après ça va se poursuivre avec des petits regards, des petits sourires, etc. Après ils vont se dire qu'ils sont amis, mais peut-être il y en a un des deux qui aime l'autre personne mais plus que d'amitié. Et je pense que c'est ça en fait qui va.
Il y a des sous-entendus.
Oui
qu'est-ce
voilà.
Que tu
Thomas, qu'est-ce que tu partages toi avec tes amis filles ou ton ami fille?
Comme des frères et sœurs.
Vous avez les mêmes passions.
Oui.
Vous faites des activités en commun que vous aimez bien faire.
Pas forcément. J'ai des amis qui n'ont pas les mêmes passions de moi et ça n'empêche pas de m'en entendre. Et justement, ça me permet de m'intéresser à d'autres domaines. Et c'est pour ça que les amis sont précieux pour moi, en fait.
Qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles.
Oui, exactement.
Après, quand je dis ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que chacun va sauter sur l'autre. Mais pour rester dans le cadre de l'amitié, de la sincérité, ça ne marche pas. Franchement, pour être honnête, ça ne marche pas.
Eh bien, on se gardera bien de tout commentaire, mais il y a de quoi se sentir seul.
Je me sens seul ce soir. Je prie pour te le faire savoir. Bébé. Écoute-moi s'il te plaît, je te laisserai tranquille après.
C'était Yoa sur Inter, Madi, la femme en tant qu'homme, en tant que femme, et les inégalités souvent criantes, matinée de sexisme, les élèves d'interclasse ont voulu en parler aujourd'hui. D'autant que bien des milieux sont concernés. Dans le Lot-et-Garonne, collège Louis Ducos du Hauron à Agen, c'est ce qui se passe en cuisine qui a intéressé Jeanne, Jean-Rayan, Marceau et Oussama.
Honnêtement, c'était un peu le choix de la gourmandise au début. Et après, on s'est intéressé aux inégalités dans les métiers de la restauration.
Et on a voulu éclairer les injustices envers les femmes dans ces métiers-là. Et pour commencer, on s'est rendu à la Kitchen Factory, restaurant tenu par deux femmes. Aurore et Manon viennent toutes les deux du milieu étoilé.
J'ai fait de grandes maisons dès les premières années d'école. Je n'ai fait que des étoilés ou des relais châteaux. Et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il fallait se montrer un peu plus... pas montrer de faiblesse, on n'avait pas le droit de dire ben non, ça c'est trop lourd, du coup je le porte pas, fallait toujours se dépasser quoi. Bon, c'est l'impression vraiment que j'ai eue et c'est ce qui s'est passé dans les maisons que j'ai connues. Arriver plus tôt le matin, partir un peu plus tard le soir, montrer que on n'avait pas peur, on n'était pas fatigué et on était aussi fortes que quoi.
Presque la moitié des employés dans la restauration sont des femmes, mais elles sont encore peu nombreuses à accéder à des postes à responsabilité.
Et justement, nous en avons rencontré une. Marie-Rouge Salvat, chef étoilée retraitée, vit en Dordogne.
Moi, au départ, il n'y avait pas énormément de femmes. Il y avait Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic.
Elle fait partie des rares femmes chefs étoilées en France. Il y en a 33 en 2020 sur 628 restaurants.
Si elle a aujourd'hui plié son tablier, elle a quand même accepté de nous livrer son parcours. On l'écoute.
Je ne sais pas si tu veux connaître mon âge, mais bon, j'ai 75 ans. J'ai vendu mon restaurant il y a 8 ans. Et ce restaurant, je l'ai monté en 1990. Voilà, donc j'ai fait 25 ans de cuisine derrière les fourneaux, puisque c'était moi qui étais le chef de mon restaurant. En 1995, j'ai eu l'honneur de faire partie du guide Michelin avec une fourchette. Vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça m'a procuré. Après, j'en ai eu deux. Après, j'ai eu le Big Gourmand, 2004, 2005. En 2010, j'ai eu mon étoile.
Est-ce que cela change quelque chose pour vous d'être une femme dans le monde de la gastronomie ?
Mais nous, au départ, les dames, c'est nous qui faisons la cuisine à la maison pour notre famille et nos enfants. Donc, pourquoi on n'est pas légitime dans ce travail-là ? Les chefs nous prennent peut-être moins au sérieux que leurs homologues hommes. C'est à nous à faire en sorte de leur montrer qu'on peut faire aussi bien qu'eux et même peut-être même quelquefois mieux qu'eux.
Auriez-vous aimé continuer votre métier ?
Ah non, physiquement c'est très fatigant et je pense que à 68 ans, 70 ans, on a besoin des jeunes qui viennent en cuisine avec nous avec leurs idées. Et ça, il faut accepter que nous, on commence à ralentir au niveau physique, au niveau idée, au niveau punch, et qu'on a besoin des jeunes avec nous pour aller de l'avant.
On est allé voir les élèves au centre de formation, le CFA La Palme à Agen.
Salomé, 17 ans, travaille comme serveuse en banlieue agenaise. Elle a directement vécu des situations sexistes dans son restaurant.
Il y avait beaucoup de monde et il y a des clients réguliers. On va souvent les voir pour leur parler. Et ben, j'étais pas allée les voir parce que j'étais occupée à servir d'autres clients, c'était le run. Et je vais le voir à la fin de service quand il y a un peu moins de gens. Il me parle et il me dit « Ah, je sais pourquoi t'es pas venu me voir, parce qu'on a fait l'amour hier soir, c'était un vieux. » Il devait avoir genre 74, 80 ans, j'en sais absolument rien, mais il m'a dit ça alors que vraiment aucun rapport. J'ai juste hoché la tête et je suis repartie travailler sans rien dire de plus.
Vous en avez parlé à quelqu'un ?
À mes collègues, oui. Et elles m'ont demandé si elles voulaient qu'elles aillent le voir et j'ai dit non, c'est bon, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes ou qu'ils reviennent plus parce que comme ce sont des clients réguliers.
Eva a 16 ans, elle est apprentie cuisinière. Derrière son plan de travail, elle n'est pas non plus épargnée par le machisme.
Une personne âgée qui est venue en cuisine pour s'en prendre à nous faire des remarques sexisme et tout. Que la femme en cuisine, c'est mieux qu'elle passe sous un bureau pour réussir ce qu'elle peut faire, que... pour réussir, faut qu'on passe sous le bureau pour faire ce qu'on veut en fait.
Et qui vous a dit ça ?
Un client qui est venu en cuisine pour nous dire ça.
Avez-vous déjà voulu changer de métier à cause du sexisme ?
Oui, parce que c'est dur de devoir encaisser ça. Ça peut arriver souvent, oui.
Un reportage avec le concours de Fanny Baye, diplômée de l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux. Autre position délicate, celle des femmes dans le monde paysan. Tout naturellement, cette question s'est posée au lycée de Carnilien, à Guingamp, lycée agricole.
Bonjour, moi c'est Emma. J'ai 16 ans, j'ai grandi dans un petit village du Finistère à Scrignac dans les Monts d'Arrée. Les Monts d'Arrée, c'est une petite région de Landes où il y a des anciennes ardoisières. Dans mon lycée, j'étudie la production animale, l'agriculture. Chez moi, c'est une histoire de famille. Mes parents ont une ferme depuis 2016 et j'ai décidé de prendre le relais par passion.
Moi, c'est Maëlys et pour moi, c'est pas vraiment pareil. Ma famille n'a aucun lien avec le monde agricole, mais il m'a quand même attirée. D'ici quelques années, je me vois bien salariée dans une ferme, puis exploitante à mon compte.
Toutes les deux, nous sommes des filles, des femmes, des futures agricultrices. Avant de regarder le problème à l'échelle de la région, j'aimerais vous faire entendre l'histoire de ma mère. Je l'ai enregistrée un soir après sa journée de travail.
Je suis agricultrice à Scrignac, installée avec mon mari depuis 2016, qui lui était installé depuis 2007 sur la ferme familiale donc de mon mari, où étaient agriculteurs son père et son grand-père. Et j'ai 4 enfants.
Comment as-tu fait avec moi, Morgan et Juliette en étant à la ferme ?
En étant sur l'exploitation agricole, c'était en fait pour moi plus facile de gérer toutes les activités et la scolarité des enfants. Parce qu'en tant qu'infirmière libérale, en fait, quand j'étais en tournée, ben, j'étais pas là. Et quand on n'est pas là, on n'est pas là. Finalement, ça a été plutôt un atout pour vous élever.
Maman, trouves-tu que l'agriculture est plus dure pour les femmes que pour les hommes ?
Je pense que avant, il y avait une grosse différence entre les femmes et les hommes parce que moi, j'ai vu ma grand-mère qui s'occupait de la traite. Les salles de traite n'existaient pas. Tout était manuel. Il fallait porter les pots de lait. On était à 4 pattes sous les vaches. Nettoyer sous les vaches, tout était à la main. Donc, c'était très dur pour les femmes. Et les hommes étaient plutôt sur les tracteurs. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus de matériel adapté et puis il y a plus d'hommes qui traient maintenant et puis, comme je dis, le matériel est beaucoup plus adapté.
Selon les chiffres du site de la Chambre d'agriculture de Bretagne, comme dans beaucoup d'endroits de la société, les agriculteurs sont encore très majoritairement des hommes. Et pour les représenter dans les syndicats, les coopératives ou à la Chambre d'agriculture, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes.
La loi essaie d'installer un peu plus de parité, mais il y a encore beaucoup de boulot. En Bretagne, en 2018, selon des élus de la Chambre, 30% des actifs agricoles étaient des femmes. Et seulement 15% des postes à haute responsabilité étaient occupés par elles dans la région.
Toutes les deux, on se demandait si ces chiffres de 2018 avaient évolué. On a fait des recherches, mais difficile de trouver des infos sur Internet qui ne datent pas de plusieurs années.
Et au détour d'une recherche, on a trouvé une source intéressante. Pour tenter d'inciter les femmes à prendre des responsabilités dans ce monde de mecs, le réseau Agriculture au féminin agit depuis 2007.
À l'époque, des femmes élues des chambres d'agriculture de Bretagne ont décidé de se rassembler pour accompagner leurs consoeurs dans la reprise d'exploitation, la prise de responsabilité et l'acquisition de nouvelles compétences.
Une chronique interview avec le soutien de Laurane Goyer de l'IUT de Lannion et Élodie Wilfried. Après les femmes en cuisine étoilée, les femmes sur les terres, le destin d'une femme, alors jeune fille, âgée de 15 ans à l'époque des faits, Claudette Colvin, qui bien avant Rosa Parks, s'était levée dans un bus aux États-Unis, encore sous le coup de la ségrégation raciale. Le destin de Claudette Colvin est raconté au Centre Beaubourg, dans une expo interactive, prolongement de livres et BD, écrit par Tania de Montaigne. Ce n'est pas rien de passer le périph' et de déambuler dans le quartier du Marais pour ses troisièmes du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis.
En Alabama, dans les années 50, Claudette Colvin, une jeune fille noire de 15 ans, a refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus. Ça s'est passé 9 mois avant que Rosa Parks fasse le même geste. Et avec notre classe de 3e du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis, nous sommes partis à la rencontre de son histoire.
Bonjour, téléphone, les clés dans les poches.
Bonjour. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà venus dans cet établissement ?
Non.
Non. Alors, cet établissement, c'est un centre culturel, donc c'est plus qu'un musée. Ça veut dire qu'il y a plusieurs disciplines artistiques. Il y a des expositions temporaires, il y a du cinéma, du spectacle vivant, de la photo. C'est sur 6 étages. Et vous, aujourd'hui, vous allez aller au Forum moins 1, donc au sous-sol, pour vivre une expérience en réalité augmentée. Donc, bienvenue.
Alors là, on rentre dans la salle du Forum de moins 1. Tania de Montaigne est là. C'est elle qui a raconté l'histoire de Claudette Colvin dans un livre, dans une BD, un spectacle et maintenant cette exposition à Beaubourg.
Bonjour Madame la journaliste.
Bonjour.
Bienvenue. Vous allez mettre un casque. Vous allez partir dans un voyage avec de la réalité augmentée. attention, ça va durer 30 minutes et je vous retrouve juste après.
C'est super, j'ai hâte.
L'expérience est terminée. On était dans une pièce qui racontait l'Alabama des années 50 et on nous raconte l'histoire de Claudette Colvin, cette jeune fille emprisonnée injustement pour avoir refusé son siège à un blanc. On voit donc en hologramme Claudette Colvin, mais aussi Rosa Parks, Martin Luther King et on découvre le tout début du mouvement des droits civiques.
Alors là, on est en train d'écrire des mots sur un cahier qui seront donnés à Claudette Colvin, car elle est encore vivante aujourd'hui. On lui écrit des mots de soutien, etc. Tout ce qu'on peut écrire, en fait.
C'était super bien. C'est quelque chose à faire et à découvrir, surtout. Des frissons, c'était des fortes scènes. Surtout quand les policiers sont venus la chercher.
J'ai été épatée par cette nouvelle technologie. Franchement, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça.
On retrouve Tania de Montaigne dans une salle derrière l'exposition.
Alors, pourquoi elle n'a pas été symbole? Est-ce que vous avez compris pourquoi ce n'est pas elle qu'on a choisie?
Parce qu'elle était jeune et on ne la croyait pas trop.
Elle a 15 ans, hein, vous voyez. Donc pour tout le monde, c'est un enfant. Puis après, il y a un autre truc qui fait qu'on ne la choisit pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est?
À cause de sa couleur de peau, parce qu'elle était confusée et ses cheveux. Il disait que Rosa Parks, elle avait les cheveux raides et elle était claire. Du coup, l'image parfaite pour représenter.
Le mieux, c'est d'être claire de peau, y compris pour les Noirs. Et le mieux, c'est de ne pas avoir les cheveux frisés, y compris pour les Noirs. Donc, ce n'est pas formidable. Ils se disent faudra mieux attendre quelqu'un qui sera un peu plus acceptable pour les Blancs et un peu plus enviable pour les Noirs. C'est quoi le milieu social de Claudette?
Je crois qu'elle était un peu pauvre ou quelque chose comme ça.
En fait, oui, elle vient d'un endroit très pauvre. Hein. Donc, en fait, voilà pourquoi Claudette Colvin, il la lâche. Est-ce qu'elle abandonne pour autant Claudette Colvin? C'est ça qui est génial chez elle. C'est qu'il la lâche, mais elle ne lâche pas.
Aujourd'hui, Claudette Colvin a 83 ans. Elle ne peut pas se déplacer, mais elle a fait une vidéo de remerciement.
Je suis désolée de ne pas pouvoir venir, mais je suis vraiment, vraiment avec vous par la pensée. Merci beaucoup de vous être engagé à raconter mon histoire et de vous être intéressé à ce que c'était de grandir à Montgomery, en Alabama, sous la loi ségrégationniste. Je vous remercie tous infiniment.
Merci Tania.
Merci.
Bravo aux collégiens de Saint-Denis pour leur implication et un grand merci à Yasmina Benbekaï pour avoir accompagné ce groupe tout au long de l'année autour de la personnalité de Claudette Colvin.
Problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody, nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can just lose and miss the moment. You just too. Ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here. I'm saying I can't lose when I'm. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. Everything. Main one crying.
body to body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze? I miss the moment. You're just too important. Nobody to body like you do.
Snooze par Ziza sur France Inter, un véritable exercice orthophoniste parfait pour le zozotement. Les relations filles-garçons, les inégalités hommes-femmes, la parité, la thématique du jour dans Interclasse, c'est celle-là, avec cette rencontre demandée par les élèves du collège Ducos du Hauron à Agen. Nicolas Barre, ancienne joueuse de l'équipe de France féminine de foot, est aujourd'hui très engagée dans les milieux scolaires.
C'est une question qu'on pose tout le temps, comment j'ai fait pour choisir le football? Pourquoi j'avais choisi le football? Eh bien moi j'ai pas pu choisir le football parce que ça n'existait pas pour les filles. Donc, j'avais aucun moyen de m'imaginer sur un terrain de foot en train de participer à un match. Et c'est le football qui m'a choisi. C'est un monsieur qui avait besoin d'une licence pour faire jouer une équipe de garçons. Il m'a pris pour un garçon, j'avais 10 ans. Et il est venu vers moi et il m'a dit, viens, tu vas jouer. Et je lui ai dit, mais non, non, parce que nous, les filles, tout de suite, quand on n'est pas compétentes, on dit non. Non, je veux pas jouer, je veux pas. Et il m'a dit, si, il faut absolument que tu viennes, j'ai besoin de faire jouer ces garçons. J'ai résisté encore une fois, j'ai dit mais non, je peux pas, je suis une fille, parce que c'est pas possible pour les filles. Il m'a dit écoute, c'est pas grave, on va t'appeler Nicolas, on va faire ta licence et tu pourras jouer avec nous et les garçons pourront jouer le week-end. Et en fait, j'ai accepté de jouer au foot par politesse et pour rendre service. Cette acceptation a changé ma vie. Mais alors dans le sens waouh, dans le sens génial, dans le sens bonheur, dans le sens aventure, dans le sens où j'ai pu vraiment exprimer plein de choses que je n'imaginais même pas que je pouvais exprimer.
En 1998, vous êtes entraîneuse dans un club de Sud-Ouest. Du jour au lendemain, le président du club décide de virer toutes les équipes féminines. Et vous gagnez votre procès contre cette décision. Qu'est-ce que cela a changé pour vous ?
Ça a changé encore une fois ma vie pour la deuxième partie, puisque là on arrive à la période où j'ai fait ma carrière, j'ai joué à un haut niveau et je m'apprête à être là pour le plaisir, parce que c'est un plaisir de jouer au foot. Et ça a changé toute la deuxième partie de ma vie, parce que moi qui n'avais jamais osé me battre pour quoi que ce soit, m'engager pour quoi que ce soit, puisque j'avais vécu une période de vie avec le racisme, racisme qui tend à être un peu quelque chose qui rétrécit, qui fait en sorte qu'on a plutôt tendance à se taire qu'à s'engager. Et bien là, je me suis revue dans les petites filles qui étaient à qui on disait non, dans ce club vous avez plus le droit de jouer, dans ce club vous avez pas le droit à l'ambition. Et je me suis revue moi dans mon enfance et je me suis dit t'as rien fait pour toi pour te battre contre le racisme. Et bien il faut que tu fasses quelque chose pour ces petites filles parce que c'est pas normal qu'elles croient qu'elles ne sont pas à leur place dans le club, qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des moyens et qu'elles n'ont pas le droit d'avoir de l'ambition. Donc je suis devenue quelqu'un d'engagé. J'ai créé l'association Liberté aux joueuses. Je suis aujourd'hui aussi en train de créer l'association Égal Sport. Et j'ai créé un projet qui s'appelle Passe la balle, où j'allais dans les écoles, je travaillais avec les enseignants, les personnels des centres de loisirs, à mettre en place des outils où tout commençait par l'espace, la motricité, la course, partager les jeux, et comment les filles et les garçons, vous avez le droit de prendre tous et toute la place.
Jeudi dernier, on est allé faire un micro-trottoir sur le terrain de basket, parce que on trouvait que les filles, elles étaient plus à l'écart et les garçons, ils prenaient plus la place et que les filles n'osaient pas prendre la balle.
Les filles, souvent, ils sont autour du terrain. On n'a pas le courage d'aller au terrain.
Comment fait-on pour que filles et garçons se sentent libres de faire le sport qu'ils veulent ?
Le plus souvent, on raisonne toujours en se disant « Est-ce que je suis capable de ?» Mais comment est-ce que vous savez si vous aimez le chocolat, si vous n'avez jamais mangé de chocolat ? Comment est-ce que je sais si j'aime le foot, le basket, le rugby ou autre chose ? Comment je sais si j'essaye pas ? En fait, osez essayer. La seule chose qui puisse vous arriver, c'est comme à moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une magie, une poudre de perlimpinpin qui tombe du ciel. Je rentre sur le terrain de foot, je ne sais pas jouer. Et je suis super forte. Et je finis par être en équipe de France.
Quand j'y vais, on ne me fait jamais la passe. J'essaie de me démarquer, mais on ne me fait jamais la passe. Donc je regarde plus souvent.
Il y avait tout le temps les garçons au terrain de foot. Et du coup, une fois, je voulais y aller. Et les garçons, ils étaient là à me dire « Non, tu joues pas parce que je suis une fille. T'es nulle. » En fait, ils essayent, ils laissent pas la fille essayer en moi.
À chaque fois que, genre, par exemple, je ratais un panier ou un truc comme ça, on me disait... t'es nul, tu sais pas jouer. Et du coup, Au fil du temps, j'ai arrêté de jouer avec les garçons parce que, enfin, je me suis renfermée sur moi-même parce que j'avais pas envie que on me redise ça.
Et aujourd'hui, vous allez jouer, vous, sur le terrain de basket?
Après cette discussion, je crois vraiment que je vais y aller, moi.
Très bien.
Moi, aujourd'hui, je vais essayer. Peut-être que c'est fait pour moi, le basket.
Les collégiens d'Agen avec Margot Longeroche de l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux. C'est bien d'oser aller sur le terrain, mais même quand on y est, ce n'est pas si évident. Prenons l'exemple du Restar à Saint-Ouen, chez les jeunes. Les sections filles sont bien développées et acceptées. Mais quand on branche la conversation sur la qualité du foot pratiqué et que l'on questionne la différence entre le foot masculin et le foot féminin, entre garçons et filles du Red Star, il y a débat.
Bien joué, Lina !
Alessiana, tu l'as !
Bonjour. Je pensais qu'on allait mettre plus de buts. On a mis 7 buts. Moi, pour mon équipe, je suis satisfaite de mon équipe, je suis fière d'eux.
Tu voulais plus de 7 ?
Ouais, moi j'aurais pu tirer des fois, mais mon poste il me le permet pas tout le temps.
Le football féminin, c'est en fait c'est comme le foot. C'est juste que voilà, c'est différent.
Donc là tu parles de foot féminin et le foot, c'est quoi pour toi?
Non, c'est juste que c'est différent, c'est pas pareil. Quand je regarde du football féminin et que je regarde du football masculin, je vois pas les mêmes trucs.
C'est quoi qui est différent?
Et c'est comme il y a beaucoup moins d'intensité, ça va beaucoup moins vite. Du coup, voilà, on s'ennuie.
Je suis pas d'accord avec toi.
En gros, tu dis c'est nul.
Non, je dis pas que c'est nul, je dis juste qu'il y a moins d'intensité.
Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des filles qui sont plus rapides que toi. Comment ça, moins d'intensité? Quand tu dis intensité, tu parles de quoi?
Quand je parle d'intensité, c'est de fort dans les impacts. C'est de sprint aussi, c'est de choses impressionnantes, en fait. Parce que, honnêtement, en regardant un match féminin, j'ai...
T'as déjà regardé un match de
Oui, j'ai déjà regardé.
T'as regardé quelle équipe?
J'ai regardé l'équipe de France, j'ai regardé l'OL, j'ai regardé le PSG.
T'as dit que le foot féminin et le foot masculin, c'était la même chose en rigolant. Pourquoi tu rigoles?
J'ai un petit peu un couteau sous la gorge, là.
Si elles gagnent moins, les filles, c'est qu'elles font moins d'efforts. Parce que si elles voulaient le même salaire que les garçons, eux, quand on voit des joueurs comme Kylian Mbappé, Haaland, eux, ils font beaucoup de choses, genre, ça joue.
Donc les filles, alors vous faites moins d'efforts et vous ne voulez pas le même salaire.
Je ne suis pas d'accord. C'est parce que le football masculin, il est plus privilégieux que le football féminin.
Non, c'est pas pour
c'est
ça.
Exactement.
Le football masculin, ça rapporte plus d'argent parce qu'il y a plus de personnes qui regardent.
Mais tu crois que c'est les joueuses qui choisissent leurs spectateurs?
Mais peut-être que si jamais j'aurais comme les garçons.
Mais c'est pas ça.
C'est le football masculin qui s'est développé en premier, c'est pour ça. Maintenant que les filles jouent, du coup, vu que c'est le football masculin qui a été mis en avant en premier, tout le monde dit que les garçons ils sont plus forts que les filles. Alors que si ça aurait été le contraire, les filles qui auraient été mises en avant avant les garçons, tout le monde dirait l'inverse.
Mais est-ce que du coup on peut dire que c'est deux footballs différents?
Non.
Est-ce que selon vous, les inégalités que vous ressentez, que vous décrivez dans le football, les inégalités entre football féminin et football masculin, sont révélatrices des inégalités dans le reste de la vie?
Oui, parce que dans une grande entreprise, une femme qui était là depuis plus longtemps et qui a plus d'expérience et un homme qui vient d'arriver, on peut favoriser l'homme.
Ben, ça se trouve, l'homme était plus compétent.
Mais comment tu le prouves, il vient d'arriver?
Non, j'ai dit peut-être.
Moi, je pense que certaines personnes pensent qu'une fille une femme n'a pas d'autorité. Mais moi, je pense que c'est complètement faux.
Félicitations, les filles. Objectif atteint, mais on va pas s'arrêter à ça. L'objectif, c'est d'aller au bout.
Conversation avec aussi Anaëlle Verzo et Fanny Léonore Crouzet qui ont passé quelques mercredis et samedis de la saison avec ces jeunes du Red Star. Les inégalités entre les garçons et les filles se voient donc très bien déjà dans les cours d'école. On a vu que le sexe pouvait faire barrage à l'amitié entre les deux sexes. Et il est temps d'aborder la question de l'identité sexuelle qui se construit à l'âge adolescent. À un âge où les agressions sexuelles et la sexualisation à outrance font partie du décorum.
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les gens de mon quartier ou dans la ville, j'ai connu plusieurs personnes qui ont été victimes d'attouchements sexuels, de viols ou de choses comme ça. Et j'ai remarqué que à chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, la faute revenait sur la femme. Et j'ai vite compris que la société actuelle, elle sexualisait beaucoup trop la femme. La société d'aujourd'hui a créé une fausse image qui en vrai n'existe pas. Et ça, je trouve ça totalement stupide.
Je ne trouve pas normal que des femmes se fassent insulter sur la manière dont elles s'habillent.
Lucien, je peux parler de tes cheveux, ton vernis et tout? Ouais. Lucien, par exemple, toi, tout à l'heure, on parlait du fait que tu mettais du vernis. Tu as une coupe de cheveux magnifique, un dégradé rose-violet que j'adorerais avoir. Est-ce que ça, c'est facile au quotidien? Est-ce que tu as des réflexions?
Franchement, ça va. Enfin, ça aurait pu être plus compliqué que ça. C'était un peu chiant au début avec ma famille.
Mais c'est passé après quelques temps. Hein. Après, c'est plus au niveau des gens dans la rue. Quand je vais au collège, je m'habille plus soft, on va dire. Et quand je sors dehors, je mets vraiment tous mes vêtements... voilà, quoi.
Tu peux nous décrire ou ça te gêne ?
Non, avec plaisir. Par exemple, bon, je prends souvent des vêtements de ma sœur. Par exemple, il y a un espèce de t-shirt, du coup, où on voit les épaules. J'ai un collier à pic, par exemple, avec une sorte de laisse en chaîne. Je mets des claps, parce que du coup, j'ai pas les oreilles percées. Et j'ai des chaussures compensées aussi. 7 cm, je crois, le compensé. Quand il fait plus froid, je mets un t-shirt à manches longues noires, avec un pull rose, qui est aussi à ma sœur, du coup.
Et vous vouliez parler de tout ce qu'on rattache à la masculinité. Est-ce que toi, Eric, est-ce que tu sens une pression sur toi pour avoir un comportement masculin ou du moins pas efféminé ?
Quand j'étais petit, par exemple, mon père il me disait « faut être fort, faut être intelligent pour pouvoir entretenir une famille. Chacun fait ce qu'il veut. »
Moi, c'était plus du genre la femme doit s'occuper de la maison, la femme doit faire les tâches ménagères. Par exemple, moi, j'ai deux frères, un grand frère et un petit frère, et à la maison... quand, par exemple, il y a quelques tâches à faire très faciles, hein, très simples, ben, je le demande à mon frère. Ben, ma mère, déjà, elle va me tomber dessus. Elle va me dire, non, c'est toi la fille de la maison, c'est toi, tu dois t'en occuper et tout et tout. D'un côté, je me dis pas que c'est la... Enfin, je me dis que c'est normal de s'occuper d'une maison, mais le fait de caractériser la femme au foyer, ben, moi, je trouve ça totalement stupide.
Comment vous changeriez la société ?
Pour que les mentalités, elles changent, il faut déjà que le système en soi, il change aussi. Donc, par exemple... qu'il y ait des présidents qui viennent de banlieue, par exemple, qu'il y ait des ministres qui viennent pas forcément tous du même milieu social, ce sera bien si. Qu'il y ait plus de diversité dans chaque métier. Et puis voilà, hein, après je pense que là on aura assez avancé.
Mais ça ne semble pas être demain la veille. La question du genre, de l'identité sexuelle, pas facile d'en parler. Un témoignage rare à suivre sur un parcours qui refuse d'être un ou une, mais se définit comme les deux à la fois. Ce sera après PNL, la playlist d'Interclass avec les élèves à la programmation à l'ammoniaque.
Wow, 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 wow. Ouais, c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain danse. Wah 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 wah. Walla walla walla. Que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettraient ça sur le dos de la faim. Wah 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 wah. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammonia. Où je finis comme Manu Lacan. Wow, 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 wow. Yeah, je crois que personne ne vit sans regret. Nous, on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés. Wow, 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 wow. À la vie, à la muerta. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Je t'aime. Wah 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 wah. À la folie. Wah 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 wah. Passionnément. Wah 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 wah. À l'ammoniaque. Wah 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 wah. Je t'aime. Wah 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 wah. À la folie. Wah 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 wah. Passionnément. Wow, 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 à l'ammoniaque. Ma vie, pourquoi petite fleur a fané? Elle était belle loin de la jungle, mais bon, la jungle l'a rattrapée. Ma vie, pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Je les vois, ma vie. Mais je n'ai Dieu que pour ma famille. J'ai fait millions, je me suis assagé. Mais on doit rendre
vendre ce qu'on a pris. Ma vie, chez moi on t'aime puis on t'oublie. Chez moi on sonne puis on grandit. Chez nous respecte, toi on tire. Ma vie, devenir quelqu'un pour exister. Car personne nous a invités. Donc on est venu tout niquer. Tout niquer ma vie. L'histoire sera courte à mon avis. Comme la dernière phrase de ma vie. Je tirais en l'air, j'irais tant pis. Ma vie, ma vie. Je me défonce, je fais la diff. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal heureux sous les griffes. J'ai patienté pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant, demain m'enivre.
PNL sur France Inter. Parler d'une identité sexuelle différente de l'hétérosexualité présentée comme la norme, c'est compliqué dans les cours de récréation. L'homophobie, les moqueries, postures, discriminations sont bien présentes dans les groupes des plus jeunes et pourtant, le genre est un sujet majeur dans cette génération. On parle souvent des trans, ceux qui veulent changer de sexe, mais aussi dans notre groupe, celles et ceux, d'ailleurs masculins et féminins, ne veulent rien dire puisque c'est entre les deux ou les deux à la fois. Bref, la seule définition que l'on connaisse, c'est non-binaire. Fanny Léonore Crouzet, bonjour.
Bonjour Eric.
Vous qui allez toute la saison d'une classe à l'autre, au contact des jeunes générations et des étudiants, c'est un sujet qu'il ne faut pas sous-évaluer, tabou, mais présent. La dimension est si forte?
Oui, dans les classes, la dimension est forte et on a beaucoup abordé le sujet dans l'interclasse, en classe, mais peu d'élèves font le pas d'en faire des reportages. On a fait des choses sur le consentement, sur la pratique, les premières pratiques sexuelles. En revanche, le genre est de plus en plus présent pour la bonne raison que dans les classes, on voit de plus en plus d'élèves physiquement entre deux genres. Pour moi, il était difficile de faire une émission sur les hommes et les femmes sans parler du troisième genre qui est la non-binarité. Et dans le cas de l'interview que j'ai faite, qui se revendique à genre, c'est-à-dire ni homme ni femme, entre les deux.
Donc le témoignage qu'on va entendre tout de suite est donc assez rare et précieux. Dans quelles conditions avez-vous réalisé cette interview, Fanny?
C'était difficile de trouver quelqu'un pour parler de ce sujet-là, parce que les associations de non-binaires et de trans trouvent que leurs paroles dans les médias sont fatiguées d'expliquer ce qu'est la non-binarité dans les médias. Et de manière générale, c'est assez peu accepté encore dans la société. Donc j'ai fait des appels à témoignages sur les réseaux sociaux et m'a répondu Cassiel, qui n'habite plus à Paris, mais que je suis allée rencontrer dans une petite ville où il s'est installé, où Yel s'est installé, puisqu'on ne dit pas ni il ni elle, on dit Yel, où il s'est installé en Normandie.
Cassiel, donc rencontré par Fanny Léonore Crouzet en Normandie.
J'ai souvent une expression de genre plutôt masculine. À côté de ça, j'ai aussi des choses qui sont souvent considérées comme étant féminines. On peut jouer avec les genres, on peut jouer avec les expressions de genre, mettre du vernis et des grosses bottes, pouvoir mélanger tout ça sans forcément avoir d'étiquette particulière.
Vous vous êtes défini comme non-binaire il y a 7 ans, d'où cette nécessité est partie?
Je me suis rendu compte qu'en fait, homme, ça collait pas non plus, c'était pas ça. C'est-à-dire que qu'on me dise il ou qu'on me dise elle, finalement je sens une injonction à être quelque chose que je suis pas. Mon père m'a dit que je devenais quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qu'il n'aimait pas.
Et vous aviez des soutiens autour de vous?
À ce moment-là, plus vraiment. J'ai pas eu de soutien pour m'aider à continuer à avancer dans ma transition à ce moment-là.
Et pourquoi ne pas être allé vers des associations?
Je n'en connaissais pas. J'ai essayé une assistante sociale qui voulait me mettre dans un foyer pour femmes, ce qui ne me correspondait pas. Elle savait pas quoi faire de moi, en fait.
Et ça, c'était lié à la question même de votre genre ?
Oui, exactement. Exactement. Parce que du coup, je venais tout juste d'être majeure et elle savait pas s'il fallait me caser dans les femmes ou dans les hommes. Moi-même, je savais pas forcément ce qui était le mieux pour moi parce que je me sentais un peu en danger, que ce soit chez des femmes ou chez des hommes, parce que je ressemblais pas forcément à une femme ni à un homme. C'était pas les bonnes cases pour moi.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai rencontré ma femme. Je suis tombé éperdument amoureux. À travers elle, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai eu envie de me battre, j'ai eu envie de vivre en fait. J'ai trouvé un travail, je me suis posé, j'ai grandi, on s'est marié.
Sur la question de la rencontre justement, si vous n'étiez ni femme ni homme, comment ça s'est passé quand vous avez rencontré votre future compagne ?
À cette époque-là, j'avais une apparence d'une femme lesbienne de 19-20 ans. Même si j'avais encore certains restes de ma transition, comme par exemple un binder pour aplatir la poitrine, c'était un peu tout ce qui restait comme vestige de cette transition-là. Donc je me présentais un peu comme une femme cis. C'était ce qui était le plus simple pour moi à ce moment-là. Du coup, on est tombés amoureux et on a commencé à se construire en tant que couple. Et puis on s'est même mariés avant que je me rappelle de tout ça en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment oublié une partie de mon identité pendant des années. Et c'est peut-être un an ou deux après le mariage que je suis retombé sur des publications sur Instagram de personnes transgenres. Ça m'a fait comme une balle dans le cœur, vraiment.
Donc c'est sur les réseaux sociaux que pour la première fois, vous avez trouvé une voix qui vous comprenait.
Oui, c'est ça, exactement. J'ai revu en fait des personnes qui me ressemblaient. Des images, des vidéos, des personnes trans qui ont montré qu'ils ont vécu, qu'ils ont survécu. Que même si ça a été difficile, ils ont eu accès à leur transition médicale. Ils montraient des avant-après. Et juste, ça me montrait une possibilité, en fait. Ça m'a rappelé que j'existais.
Vous avez dit survécu. Pour vous, être trans aujourd'hui, c'est de l'ordre de la survie ?
Oui et non. Ça dépend du contexte dans lequel on évolue. Ça dépend des milieux qu'on fréquente. Je sais que moi, dans ma campagne, je dois souvent faire des choix qui sont liés à la survie. Parce que je fais face à des agressions de temps en temps. Donc je dois choisir si aujourd'hui j'ai les cuillères ou pas de mettre du vernis et de l'assumer, de me raser et de l'assumer, d'avoir un visage plus androgyne. Je dois choisir comment je m'habille, comment je me présente, selon si je me sens l'énergie ou pas de me défendre. On me prend la tête, on me traite de sale PD, on me traite de Gwyn. On se permet aussi de demander à ma femme si son mari est un vrai. Je ne peux pas aller voter, faire mon devoir de citoyen en montrant ma carte d'identité qui montre un F. Sans que ça tombe sur une collègue de ma femme qui lui dit « Au fait, je sais, hein, j'ai vu sa carte d'identité, je suis au courant. » Même quand ce n'est pas des agressions ouvertes avec des insultes, c'est de l'intrusion.
Vous avez entamé un traitement médicamenteux.
Oui.
Vous pouvez me dire à quel moment vous l'avez commencé et pourquoi ça vous est paru nécessaire ?
J'ai commencé une transition hormonale en septembre 2021, après des années et des années et des années de réflexion.
Qu'est-ce qui a déclenché le début de ce traitement ? Comment vous êtes décidé ?
Je me suis dit que j'en avais envie. Parfois j'en avais envie, parfois j'en avais peur. Et à un moment où j'en ai eu très envie, j'ai fait la démarche de prendre les rendez-vous avec mes médecins, endocrinologues et compagnie. C'est un choix que je refais deux fois par mois, à chaque fois que je fais mes injections hormonales. Je ne le regrette pas du tout.
Votre voix est plus masculine que féminine ?
Oui, enfin, je trouve un petit peu, en tout cas, elle me correspond plus. Et puis aussi, quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, depuis que je suis sous traitement hormonal, je sens à l'intérieur que c'est en accord, en fait. Et puis aussi, avec le début de pilosité faciale que je commence à avoir, on s'adresse aussi à moi, comme apparemment, il faut s'adresser à un homme. Je sens une vraie différence.
En quoi ?
On me demande beaucoup moins de répéter. On m'écoute plus, on me coupe moins la parole. J'ai pas besoin d'insister.
Et dans le cadre d'un couple, comment ça se répartit ?
Moi, j'ai toujours voulu porter un enfant. Ça a toujours été inscrit en moi de vouloir porter un enfant. On a fait un parcours PMA avec mon épouse. Et on a longtemps hésité à savoir comment ce petit bout allait m'appeler. Et on a fini par choisir Baba, tout simplement. Parce que papa, c'était pas, ça sonnait pas forcément adéquat pour moi. Maman non plus. Donc voilà, cet enfant n'a qu'une seule mère, c'est ma femme. Il a un baba et c'est moi. Pour moi, porter un enfant, ça a été quelque chose de totalement décorrélé du genre. C'était une fonction corporelle, une fonction biologique que mon corps a la chance d'avoir. Effectivement, j'ai porté mon enfant comme n'importe quelle femme cis pourrait le faire, avec mon utérus, avec ce que moi j'appelais mes mamelles. Et j'ai fait le deuil du coup de cet allaitement pour pouvoir effectivement faire une mamectomie, c'est-à-dire me débarrasser de ces mamelles qui pour moi n'avaient qu'un seul intérêt, c'était la biologie de l'allaitement. Je pense souvent aux enfants qui sont aussi homosexuels, transgenres, qui sont peut-être concernés par ces combats-là et qui peuvent pas en parler à leurs parents, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui vous avez repris contact avec vos parents ?
Non. J'ai tenté de reprendre contact à la naissance de mon enfant. Pour l'instant, j'ai laissé une porte ouverte. Et puis, on verra plus tard.
Cassiel, qui se définit non-binaire, était avec Fanny Léonore Crouzet.
Récemment, on a beaucoup parlé des influvoleurs, comme le rappeur Booba les a surnommés. Pour un petit rappel, les influvoleurs, ce sont les influenceurs, souvent des influenceurs qui viennent de la télé-réalité, qui escroquent. J'ai entendu dire que récemment, il y a des nouvelles lois qui sont apparues pour encadrer un peu leurs pratiques sur Internet. Je voulais savoir, nous, les jeunes, quels sont nos droits face à eux, face à leurs actes sur Internet ?
La question d'Emeline posée à Jennifer Elbaz et Karina Chatin de la CNIL toutes les semaines dans Interclasse. Alors cette question du droit des mineurs dans l'univers numérique, Karina Chatin, elle est au centre de tout.
Ce qu'il faut savoir, c'est que comme les adultes, les mineurs ont des droits en ligne. Et donc ça veut dire quoi clairement ? Ça veut dire qu'ils peuvent réagir si jamais, par exemple, quelqu'un a posté une photo ou une vidéo qui leur pose problème. Eh bien, le mineur doit pouvoir, à partir d'un certain âge, on considère qu'à l'âge de 15 ans, un ado est suffisamment mature pour pouvoir lui-même exercer ses droits sans l'accord de ses parents. Et donc, concrètement, eh bien, il va s'adresser au réseau social pour faire effacer cette photo ou cette vidéo qui lui pose un problème. Et donc, effectivement, nous, on est vraiment sur la ligne de dire, bien sûr, il faut davantage protéger les enfants dans le monde numérique, parce que on voit bien qu'ils sont exposés à des différentes formes de cyberviolence ou à des contenus qui sont inappropriés. On parle beaucoup en ce moment de contenus à caractère pornographique qui touchent les enfants dès 9-10 ans. Donc bien sûr, il faut davantage les protéger, mais en même temps, il faut protéger leur vie privée. Car les enfants, les ados, les mineurs ont droit aussi à une vie privée. Et du coup, ils ont à partir d'un certain âge aussi le droit d'exercer leur droit en ligne et donc de reprendre la main finalement sur reprendre le contrôle sur leur vie numérique et ils deviennent du coup des citoyens numériques à part entière.
Emeline, ta génération est-elle au courant des droits justement auxquels vous pouvez prétendre ? Pas trop, j'ai l'impression.
Non, pas trop. Ouais. Pas du tout même.
Pas du tout, ouais.
Il y a aussi une difficulté, Emeline, c'est que par exemple, si tu veux faire effacer une photo sur un réseau social qui te concerne, qui te pose un problème, tu vas avoir du mal. Tu vas avoir du mal parce qu'en fait, quand tu vas sur la plateforme, tu t'aperçois que les conditions générales d'utilisation, ce qu'on appelle nous la politique de confidentialité, c'est-à-dire les mentions d'informations qui vont te permettre d'exercer tes droits, elles sont incompréhensibles. Elles ne sont pas adaptées. On ne les lit pas, ouais. Mais voilà, on ne les lit pas parce qu'elles ne sont pas adaptées aux jeunes. Or, la loi, plus exactement le cadre juridique européen, prévoit que justement, il faut une information qui soit adaptée aux jeunes. Et du coup, nous, à la CNIL, on est en train de se rapprocher des principales plateformes de réseaux sociaux pour leur dire, voilà, nous, on a rencontré des jeunes. Ces jeunes, ils nous ont dit, en l'état actuel, c'est impossible pour nous d'exercer nos droits. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Et donc, nous, on se rapproche de ces plateformes en leur disant, on a des témoignages de jeunes, ils n'arrivent pas à exercer leurs droits. Donc, nous, on est là pour vous accompagner. Il faut absolument améliorer les mentions d'information.
Et un droit qui est hyper important, quand on change, par exemple, de service pour écouter la musique, on peut emporter ses playlists. Pourquoi ? C'est le droit à la portabilité. On a le droit d'emporter nos données.
Jennifer Elbaz à l'instant et Karina Chatin auparavant répondaient donc à Emeline. C'était la chronique de la CNIL. À la semaine prochaine.
Interclasse, une émission d'Éric Valmire et Fanny Léonore Crouzet, réalisée par Lilian Allôme, composée par les élèves d'Interclasse et Valentine Chédebois,
Après le flash, rendez-vous avec Leïla Kadour-Boudadi pour I Love Le Grand.